Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort d'Aurélien Piogé. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Anne-Sophie Martin, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Qui est responsable de la mort d'Aurélien Piogé ? Aurélien Piogé, dans un geste désespéré ? Un copain ? Trois copains ? Sept copains ? Ce qui est sûr, c'est que le jeune vendangeur a été retrouvé pendu et couvert de coups.
Sa tête a triplé de volume. Les yeux sont tellement tuméfiés qu'il ne peut ouvrir les yeux.
Les faits qui sont décrits sont des faits absolument abjects, où on transforme un être humain en objet de sadisme.
Sa mort, au terme d'une journée de torture et d'actes de barbarie, a été couverte par un mensonge collectif et une omerta incroyable.
Il y a des trucs qu'on ne peut pas oublier, surtout son visage. Et pourquoi je n'ai pas fait stop ?
Les voilà, les vendangeurs et leurs copains. Il y a ceux qui ont frappé, tabassé, humilié, et les autres qui ont tout vu et qui n'ont pas réagi.
On est parti pour un long tunnel qui va durer des mois, voire des années.
On ne fera pas une, mais plusieurs reconstitutions. On ne fera pas une, mais plusieurs confrontations.
Parlez, dites quelque chose. Je les regarde. Ils regardent toujours leurs chaussures.
Cette affaire, c'est celle d'un crime en partie impuni. Et pourtant, le président de la cour d'assises l'a dit au procès des vendangeurs. Le meurtrier d'Aurélien est bien parmi nous, dans cette salle.
Saint-Lambert-du-Latay, dans le Maine-et-Loire, le 19 octobre 2008.
Ce matin-là, le garde-chasse Emmanuel Barré est sur la route.
C'est un dimanche matin, je fais un petit tour de chasse tranquille avec ce beau temps en pleine période de vendange. Et j'arrive chez mon grand-père où j'ai l'habitude de passer le dimanche matin. Je viens pour faire le plein de mon tracteur avec mon bidon. Et là, je me détourne, je vois comme un épouvantail. J'ai posé mon bidon et j'ai été voir. Et en fait, je m'aperçois que ce n'est pas un épouvantail, c'est quelqu'un qui est pendu. Il est accroché là sur une barre métallique avec une rallonge électrique où il y avait X nœuds et qui était accroché sur les bords de bois derrière pour le soutenir. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a les pieds qui touchent au sol et il a les genoux fléchis comme ça. C'est pas normal, puisque normalement, un pendu, quand il est bien pendu, il a les pieds qui restent au-dessus du sol. Donc j'ai fait le tour et puis j'ai regardé qui ça pouvait être, mais je le connaissais pas. Je le regarde, je vois que c'est un jeune, il est rouquin, il a un petit bouc. Il a la tête, on ne voit pas les yeux, tellement il est tuméfié. Il est habillé avec une parka verte, deux pantalons, un marron et un vert. Il y en a un qui est déchiré, donc on voit bien l'autre en dessous. Il a des chaussures de marche et il a des persimes. J'attends les gendarmes et en les attendant, j'aperçois un camion qui est là-bas dans le champ à 150 mètres facile. Et je me dis que c'est peut être le camion de la personne que je viens de trouver sous la pentille.
Les gendarmes de la brigade de Mur-et-Rigné arrivent au Gaudissart. Il est 10h55.
Parmi eux, l'adjudant Ronan Le Pape.
Ce qui nous a intrigué dès le départ, c'est la position des pieds. Les pieds sont reposés sur le sol, c'est un sol bétonné. Une des jambes est raide et l'autre jambe est légèrement fléchie. Les poings serrés. Le corps était droit. Ce qui est un peu incohérent par rapport à une pendaison. Puisque quand une personne se pend, généralement elle bouge beaucoup.
Gaël Moreau, maréchal des logis, est aussi sur place.
On trouve à proximité du corps, au sol, un seau blanc qui est quand même assez haut.
C'est intéressant, c'est la distance entre les pieds et le seau. Il est posé à l'envers, juste à 20 cm de ses pieds. Généralement, quand on donne un coup de pied pour se pendre, le seau, il va pas se retrouver debout, il va se retrouver renversé.
La première chose qu'on remarque, c'est l'état en fait de la personne. Il a la bouche gonflée. Et puis au niveau des yeux, des hématomes qui commencent un petit peu à changer de couleur. Enfin voilà, très rougeâtre. Hein, voilà, c'est vraiment comme quelqu'un qui a reçu des coups de poing au niveau des yeux et de la lèvre. Quoi.
Il avait ce qu'on appelle des hématomes en lunettes, c'est-à-dire qu'il avait des yeux qui étaient bouchés, fermés.
Vraiment le visage de quelqu'un qui a été frappé. C'est pas en lien avec la pendaison.
Et puis un autre détail trouble les gendarmes.
Il y a un simple nœud entre la rallonge par rapport à la poutrelle et un double nœud au niveau du cou. Et la rallonge, qui plus est, n'est pas accrochée, si vous voulez, elle est pendante. Donc elle est tirée par rien.
Un système de nœuds comme inversé par rapport au dispositif habituel d'une pendaison. C'est la première fois que les gendarmes voient cela.
Ça faisait beaucoup d'éléments entre la position du corps, le visage de la personne et la rallonge. Beaucoup d'éléments qui laissaient présumer qu'il y avait quelque chose d'anormal par rapport à ça.
Les gendarmes s'informent. Le propriétaire a balayé son appentis la veille, vers 17h. Et le pendu n'était pas là.
J'étais sûr que j'étais le premier à venir ici parce qu'il y avait une gelée blanche, comme de la farine ou de la neige. Et il n'y avait aucune trace au sol, ni de pied, ni de voiture. Personne n'était passé.
Donc la personne s'est pendue au cours de la nuit ou au petit matin.
Le garde-chasse emmène ensuite les gendarmes près du camion qu'il a repéré, à plus de 150 mètres de la pentille.
On voit des traces de roues relativement fraîches dans l'herbe. Manifestement, c'est un camion qui est arrivé là il n'y a pas très longtemps. On a affaire à un camion type tuffeur, présentant un grand désordre à l'intérieur. On retrouve donc une carte vitale au nom d'Aurélien Piauget, ainsi qu'un permis de conduire dont la photo nous permet de faire le lien avec la personne qui a été découverte sous la pentille.
Aurélien Piauget, il avait 28 ans. Arrivé sur les lieux, le médecin légiste d'Angers procède à l'examen du corps. La mort remonte à 24 heures maximum. Et surtout, il balaye les doutes des gendarmes.
Pour le médecin légiste, la vitesse du suicide est compatible avec la scène de découverte du cadavre. Il nous dit que les traces qu'on voit au niveau du visage pourraient être des traces de putréfaction.
Aurélien Piauget s'est suicidé à 8 km de la Jumelière, le domaine où il venait de faire la saison des vendanges. Les gendarmes préviennent sa famille.
Fiora Piauget est la sœur d'Aurélien Piauget.
Ma maman décroche le téléphone et elle entend au bout du fil, c'est la gendarmerie. Et là, elle dit, arrête Bruno, je t'ai reconnu, je sais que c'est toi, tu me fais une blague et tout. Les gendarmes lui demandent si elle connaît Aurélien Piauget.
Et je lui dis, bah oui, Aurélien, c'est mon fils. Mais madame, on est désolée, on a retrouvé votre fils pendu. Et là, j'ai... Bêtement, j'ai dit, mais il est mort. Et ils m'ont dit, oui, madame, il est mort. Donc là, c'est l'effondrement. Je passe le téléphone à mon père qui parle avec les gendarmes et puis je me réfugie dans les bras de mon fils. Et oui, mon fils et ma fille étaient là aussi. Et je craque complètement, évidemment. Je comprends pas. Aurélien, c'est quelqu'un qui aimait la vie. Et je voyais pas, il nous avait pas fait part de problèmes particuliers, ni à son grand-père. Et son grand-père, il tombe de haut, mais il nous dit, mais c'est pas possible, j'ai vu Aurélien récemment. Enfin, il y avait aucun signe de dépression, de... j'en ai marre, rien. Tout allait bien. Non, franchement, il comprend pas. C'était la fin des vendanges, il allait avoir son salaire, il était content, il allait pouvoir faire autre chose. Il aimait bien faire les vendanges, c'était un de ses boulots préférés parce qu'il était dehors. Donc non, il y avait aucune explication plausible.
Assommés, les proches d'Aurélien se rendent l'après-midi même à la gendarmerie, où ils dressent le portrait d'un doux rêveur un amoureux de la nature.
C'était mon grand frère, j'étais sa petite sœur, donc il était très protecteur avec moi. C'était toujours intense en fait. C'était joyeux, c'était familial. On vivait dans le jardin, on faisait des cabanes, on coupait du bois, on allait faire du bateau sur les inondations. Enfin, c'était, voilà, une enfance simple.
Une enfance au village, sur les bords de la Loire. Et puis, un départ en famille pour la Suisse, dans un établissement scolaire UP. Aurélien avait 15 ans.
Son papa était photographe, donc très vite, très tôt, il a été amené à prendre des photos.
Moi, je me souviens de photos parce que j'en ai aussi beaucoup de paysages. Je me souviens d'une photo de la Loire, la brume, d'une photo de boue séchée, ça crée des formes géométriques.
Après son bac, Aurélien s'est inscrit à la fac Louis Lumière à Lyon pour suivre des études de cinéma, avant de décider de changer de vie.
Il se voyait ne pas rentrer dans le moule de la société. Il voulait pas être dépendant. Il voulait faire sa vie. Il avait pas beaucoup de besoins.
Il voulait vivre dans la nature avec ses chats, avec il avait même une poule pendant un moment. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir une belle maison, une voiture. Non, c'est je crois que c'est plus une philosophie de vie. Son projet, c'est pour ça qu'il avait acheté ce camion, pour pouvoir aller dans des pays étrangers, par exemple, aller faire ramasser les olives en Espagne, les fruits, légumes.
Ses parents lui ont avancé l'argent et Aurélien s'est lancé dans cette vie faite de voyages et de nouveaux compagnons de route. Des amis inconnus de sa famille, jusqu'à un séjour en Anjou à l'automne 2007.
J'avais invité Aurélien chez ma maman pour fêter mes 49 ans. Il est arrivé pour dîner avec Landry Frias. Il l'appelle Tintin. J'ai pas d'a priori, les gens peuvent avoir des dreadlocks, des anneaux dans le nez. Ça m'est égal. Ce qui m'a impressionné et déplu, c'était l'état de saleté de ce garçon et son bagou. Il parlait, il avait tout vu, tout fait. Ça m'a vite saoulé. Maman, chez elle, a une armoire normande. Et Landry en a beaucoup parlé. Vous avez un beau meuble, ça vaut de l'argent, c'est très beau. Enfin, il regardait un petit peu partout. Après, j'ai eu Aurélien au téléphone et puis je lui ai dit, écoute Aurélien, je suis un petit peu inquiète, voilà, parce que je trouve que ton ami, il est loin de ce que je pensais que tu pouvais avoir comme ami. Et là, Aurélien m'a répondu, ah mais maman, tu regardes trop de conneries américaines à la télévision, les gens sont pas comme ça.
Des nouvelles fréquentations qui vont bientôt provoquer un clash avec ses parents, à la fin des vendanges 2007.
Nous avait demandé s'il pouvait venir à la maison avec les vendangeurs. Franchement, ça m'embêtait, parce que je sais que certains fumaient du hashish et que j'avais pas envie que mes meubles, que les canapés, et puis que je connaissais l'état de crasse de certains.
Jean-Jacques Piauget, le père d'Aurélien.
Dans son esprit, Aurélien, ça lui posait aucun problème. Lui, ses parents avaient une maison au bord de l'eau. Il voulait venir y vivre avec ses copains. C'était tout à fait logique pour lui. C'était aussi sa maison où il pouvait venir quand il voulait, mais seul. Avec ce genre de fréquentation, bien sûr, c'était exclu.
Il m'avait dit « Oh, mais tu crois que mes amis sont des voleurs, on ne va pas faire de dégâts ?» Je dis « Non, Aurélien, notre décision est prise, c'est non, il n'y a pas à en discuter. » Et c'est là que le froid est arrivé comme ça. Du coup, il en avait pris ombrage et donc il nous avait dit « Je vous rends les clés, j'en aurai plus besoin. »
C'était vraiment pas habituel dans la famille d'avoir quelqu'un qui cesse de nous contacter. C'était vraiment, il nous en voulait, c'était son choix, quoi.
Au
Aurélien n'avait pas vu ses parents depuis plus d'un an, mais il ne semblait pas en souffrir au point de se suicider. C'est en interrogeant les vendangeurs avec lesquels il venait de vivre 4 semaines que les gendarmes vont découvrir une explication plus plausible.
Jean-Yves Lignel est journaliste au Courrier de l'Ouest.
C'est des gens qui vivent de manière très itinérante, dans des camions ou dans des caravanes ou dans des combis qui sont aménagés comme ça. Et voilà, les couples se font et se défont. C'est une espèce de grande famille.
Maurice est viticulteur.
Cette année-là, le groupe il est venu par Aurélien. C'est lui qui a trouvé les gars et les filles, tout ça. Comme il était déjà venu en vendange. Et puis bon, comme c'était quelqu'un de sérieux, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Hein. Et tout ça, bon, bah, ils sont arrivés le 20 septembre, là, dans leur camion.
Parmi tous ces vendangeurs, il y a Sophie.
Sur le terrain, il y a le camion d'Aurélien, ensuite le camion de moi et Lulu. Juste à côté, ça doit être le camion de Maxime. Claude, qui avait son camion. Et encore un peu plus loin, le camion de Chloé.
Le matin, on partait vers 8h, 8h15, dans les vignes. Et après, on arrêtait vers midi, 1h15. Le déjeuner, il se faisait chez moi. Tous les vendangeurs et moi-même, on mangeait ensemble. C'est familial, oui, tout à fait. On a toujours fait comme ça, avec ce mode de vendange et de repas à la maison.
Le soir, un petit apéro, un petit blanc d'Anjou, offert par le patron.
Ils organisent des fêtes entre eux parce que les viticulteurs, ils cherchent à les accrocher, à les retenir, à savoir qu'ils pourront compter sur cette main-d'œuvre au moins lors des vendanges suivantes.
Et la fête, les vendangeurs l'ont faite justement, la veille du drame, pour célébrer la fin de la récolte. Et ce soir-là, raconte le saisonnier, Aurélien a fait une grosse bêtise avec Sophie, la petite amie de Ludovic.
Il n'y a pas que le petit blanc liquoreux d'Anjou à cette soirée qui a l'apéro spécial vigneron. Donc ça doit être la même chose avec un mélange de gouttes, de gnôles, quelque chose de fort. Mais sinon, j'ai bon, du coup passé la soirée avec Aurélien. Et au final, je rentre me coucher, enfin, en tout cas dans mon camion avec Aurélien.
Profitant de l'absence de Ludovic ce soir-là, Aurélien s'isole avec Sophie, jusqu'au petit matin, où ils sont réveillés manu militari.
Ça tape, ça cogne, ça demande des comptes. Et on n'est pas sortis tout de suite, mais ils ont insisté. Et c'est là qu'on est sortis dehors. On sort tous les deux et on se souvient qu'il faisait froid.
Face à Aurélien et Sophie un peu ahuris, 3 vendangeurs en colère. Claude, Maxime et Chloé.
Ils demandent des comptes et moi je leur dis qu'il s'est rien passé en fait. Et non, Aurélien me regarde et me dit bah, si. Je me souvenais pas en fait sur le coup. Ouais. J'ai beaucoup perdu la mémoire ce soir-là. J'ai pas mal de flashs qui me sont revenus. Alpagués par ce groupe. Avec tous ces visages en face de moi, en train de nous montrer du doigt, de nous accuser. Et oui, il y a un décalage. Moi, je comprends pas ce qui arrive. Et moi, ça m'a choqué. C'est là que ça m'a déclenché une crise où vraiment j'ai vrillé. Hein. Donc Chloé s'est empressée de me remonter dans le camion, de fermer les portes, de mettre de la musique. Et c'est comme ça que j'ai été coupée de ce qui se passait dehors, dans un premier temps.
Et ce qui se passe dehors, les vendangeurs le racontent aux gendarmes. Ils ont flanqué une rouste à Aurélien.
La gendarme Gaëlle Moreau.
La jeune fille est sortie en pleurant. Et donc les personnes présentes sur le camp ont interprété ça comme si c'était une relation sexuelle non consentie. Aurélien aurait violé la jeune fille.
Maître Louis-René Pénaud est l'avocat du grand-père d'Aurélien.
On décrit quelques gifles punitifs, parce que Aurélien aurait poussé à l'adultère Sophie, alors même que le petit ami de celle-ci n'était pas là.
Maître Isabelle Guérin, l'avocate des parents d'Aurélien.
Ils avaient leurs propres règles et ils avaient estimé qu'il n'avait plus sa place au sein de leur groupe, au sein de leur tribu. Ils le considèrent effectivement comme un traître.
Au dire des vendangeurs, Aurélien est resté prostré dans son camion toute la journée du samedi. Et il a levé le camp, sans rien dire, vers 1h du matin. Voilà qui éclaire mieux les gendarmes. Une correction pour le viol, un bannissement du groupe, et tout ça aurait pu pousser Aurélien au désespoir. L'autopsie va venir encore conforter la thèse du suicide. Que dit le légiste, Dominique ?
Autopsie pratiquée lundi 20 octobre. On est au lendemain de la découverte du corps d'Aurélien. Et le médecin légiste va observer une asphyxie d'origine mécanique qui a provoqué le décès. Et il fait cette précision. Il constate autour du cou la présence d'un sillon cervical tel que l'on peut en observer lors d'une pendaison.
Et les traces sur le visage d'Aurélien, ils expliquent toujours par des marques de putréfaction ?
Non, pas du tout. Ils dressent une très longue liste d'ecchymoses, d'hématomes, de plaies sur le visage, mais aussi sur le corps d'Aurélien. Et il écrit « La présence de ces nombreuses blessures évocatrices de violence sur le corps et en particulier sur le visage ne peut pas exclure l'intervention d'un tiers. » Ce qui confirme les premiers témoignages, Aurélien a bien été frappé, il a bien été battu par les membres du groupe.
Le même jour, un permis d'inhumer est délivré, mais quand la famille d'Aurélien apprend qu'il a été roué de coups, elle porte plainte.
Oui, 5 jours après la découverte du corps, l'enquête va donc se poursuivre pour découverte de cadavres. En même temps, les gendarmes ont une double mission. Ils doivent retrouver ceux qui ont frappé Aurélien et enquêter sur le prétendu viol de Sophie.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la mort d'Aurélien Piauget. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.